Kibroth Atahava. Kibroth Atahava. Vous savez ce que ça voulait dire? Quelqu'un? Les tombes de la convoitise. Nous sommes dans l'étude du livre des Nombres. Et les exemples que nous y trouvons, c'est pour nous. Paul nous disait que ces exemples sont pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Et donc, quelque part, on peut plaindre ces gens dont les fautes ont été rapportées dans la parole de Dieu. Est-ce que vous aimeriez que vos fautes soient imprimées dans le best-seller mondial? Pour servir d'exemple aux autres. Nous n'avons pas de raison d'être des exemples parce qu'il y a déjà des exemples d'erreurs. Si seulement nous apprenions nos leçons. Donc vous vous souvenez que après que la colonne des millions, des 2 ou 3 millions d'Israélites étaient partis, avec la provision complète du Seigneur, le peuple avait murmuré. Le peuple s'était plaint. Il fut rempli de convoitise. Il regrettait la bonne nourriture, le bon vieux temps de l'esclavage. La manne ne leur suffisait plus. C'est-à-dire la parole de Dieu ne leur suffisait plus. Ça peut être notre cas. La parole peut ne plus nous suffire. Jésus non plus ne peut plus nous suffire. Nous voulons ajouter des épices. La vie chrétienne, c'est monotone. Ça, c'est un mensonge du diable. Et nous voyons comment Dieu les a punis. Ils voulaient de la viande. Il leur en a donné jusqu'à ce qu'ils crèvent. C'est fort comme mot, mais c'est ce qu'il a fait. Il a même dit qu'ils en avaient encore dans la bouche. Ils n'avaient pas encore eu le temps de la mâcher qui les a frappés. Et ça nous rappelle que Kibroth Atahava, que la convoitise mène à la mort. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. On pourrait appeler ça, c'est moi qui ai fait la traduction, je ne suis pas un expert en hébreu. Saradiba. Pas Faradiba. Le nom de l'ex-impératrice d'Iran. Mais Saradiba. Ça veut dire la lèpre de la médisance. Slender. Lisons ensemble le chapitre 12. Commençons ensemble page 150. Chapitre 12, verset 1 à 3. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Et là, nous avons une histoire de dispute familiale. Vous rappelez de l'histoire de Moïse sauvé des eaux? Que le pharaon d'Égypte avait décidé de faire mourir tous les premiers-nés, tous les garçons mâles des Hébreux. Et on peut regarder ensemble Exode 2. Une histoire bien connue, on va juste parcourir un peu. Chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Et on sait la suite, la fille du Pharaon vient pour se baigner. Elle voit ce petit panier, ce petit coffret qui flotte dans les roseaux. Elle voit ce petit garçon qui pleure et elle l'adopte chez elle. Elle le fait grandir à la cour du Pharaon. Et la grande sœur de Moïse qui a regardé la situation, qui a proposé à la fille du Pharaon de lui trouver une nourrice. C'est Myriam elle-même. D'autres passages nous apprennent que donne le nom de ce père et de cette mère de Moïse. Exode 6:20 nous dit que le père s'appelait Amram et la femme Jochebed. Et elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. Et puis plus loin, on apprend que Myriam, c'était la sœur d'Aaron. Donc dans ce chapitre 12, on voit un frère et une sœur qui sont contre leur frère Moïse. À l'époque, vous vous souvenez que Moïse a passé 40 ans en Égypte, ensuite 40 ans en exil. Donc, si la petite sœur avait une dizaine d'années lorsqu'elle a sauvé son frère des eaux, elle a près de 90 ans maintenant. Et elle a l'habitude d'être bien considérée parmi les Israélites. Et ce qu'ils font d'abord, c'est de s'en prendre à la femme de Moïse. Il est dit, car il avait pris une femme couchite. Le pays de Couche, c'est ce qui correspond aujourd'hui au nord de l'Éthiopie, au sud de l'Égypte, à l'ouest, à l'est du Soudan. On sait que Moïse avait été marié à une Madianite en exil. Son nom, c'était Séphora. En anglais, on dit Zipporah. Ça veut dire petit oiseau. C'était une des filles de Jethro. Et c'était la sœur de Hobab. Vous vous souvenez du chapitre 10, on a parlé d'un Hobab. Que Moïse aurait bien aimé emmener avec lui pour lui servir de guide. Alors qu'en fait, c'était Dieu qui le guidait déjà. Et on pense qu'il s'agit là non pas de Séphora, mais d'une nouvelle femme. Et en fait, il s'agit vraisemblablement en fait d'un prétexte. Il n'y avait pas de raison, c'était pas un mariage interdit par les lois de l'Ancien Testament. Et sans doute, Myriam voyait en elle peut-être quelqu'un qui commençait à avoir de l'influence auprès de son frère. Peut-être qu'il s'agissait simplement de racisme. On pense que cette nouvelle femme de Cush était de couleur de noir. Mais peu importe, parce que le verset 2 nous donne vraiment la raison de leur hostilité. L'épouse, c'est qu'un prétexte. Le problème, c'est un problème de jalousie vis-à-vis de Moïse. Parce qu'on voit que Dieu lui donne de plus en plus d'autorité, de plus en plus d'importance. Et Myriam est jalouse. Est-ce que dans votre cœur, des fois, vous entretenez des sentiments de jalousie? Le Seigneur veut nous dire que la jalousie, ce n'est pas de lui. La jalousie a des conséquences terribles. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure que nous voyons l'histoire. Myriam était pourtant reconnue parmi les Israélites comme une prophétesse. Elle était la sœur du grand prêtre Aaron. Les trois, en fait, c'était comme un cadeau que Dieu avait fait au peuple d'Israël. L'Éternel parlant par le prophète Michée disait au peuple d'Israël, je t'ai racheté de la maison de la servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Donc ils avaient déjà une grande considération par le Seigneur, Aaron et Myriam. Et il semble que ce soit Myriam qui ait été l'instigatrice de cette rébellion. Parce qu'elle n'était pas satisfaite, elle voulait la première place. Est-ce que je veux la première place dans ma vie? Est-ce que je vais être le premier, quitte à écraser les autres, à dire du mal des autres, à dire des mensonges sur les autres? Le Seigneur va nous montrer que c'est très grave. Il est intéressant de voir ce verset 2, parce que pour l'instant on a l'impression que Moïse n'est même pas au courant. L'Éternel entendit. Peut-être que vous avez commencé à dire du mal de quelqu'un, à penser du mal de quelqu'un. La personne ne le sait pas. Mais le Seigneur le sait déjà. Et vous devez vous repentir. Je dois me repentir. Moïse, lui, vous souvenez de sa réaction? Josué, son serviteur, voulait qu'il empêche deux prophètes non officiels de prophétiser. Et Moïse lui avait dit, es-tu jaloux pour moi? Ah, si seulement tout le peuple pouvait être composé de prophètes, de gens qui sont en contact avec Dieu. La différence, c'est que Moïse, lui, ne cherchait pas sa gloire personnelle. Il s'oubliait lui-même. Renonçait à soi-même. À notre petite gloire. Pour servir sa gloire. Et c'est là qu'il y a la paix. Myriam et Aaron, ils ne dormaient pas la nuit. Ils se disaient, oh, mais pour qui il se prend? Moi aussi, c'est moi qui l'ai sauvé quand il était petit. Il me doit tout. Qu'est-ce qu'il se prend de décider lui-même qui vont être les 70 prophètes ou pas? Pendant ce temps-là, Moïse dormait. La paix sur lui. La paix du Seigneur. L'amertume, la jalousie nous font plus de mal que ceux envers qui nous la nourrissons. Et pourtant, Myriam, elle était connue comme celle qui avait composé un chant à l'honneur du Seigneur. Et elle n'aimait pas tellement, je crois, cette idée qu'il y ait d'autres prophètes qui se multiplient. Elle voulait garder son statut privilégié. Elle ne voulait pas que ça soit une profession ouverte à tous. Est-ce que nous, des fois, dans notre cœur aussi, nous attachons à des privilèges anciens? Nous avons le privilège d'être chrétien. Et on ne veut pas qu'il y ait de nouveaux qui arrivent. Parce qu'eux, ils y connaissent rien. Est-ce que nous voulons garder le milieu fermé? Ou est-ce que nous disons, le Seigneur a donné que librement, donnons librement? Donc Myriam et Aaron ont vraiment du mal avec cette influence grandissante que Dieu reconnaît à Moïse. Verset 3 pose un problème. Parce que si vous vous souvenez bien, les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par qui? Par Moïse. Et l'humilité, c'est une de ces rares choses, enfin une de ces caractéristiques, c'est qu'on ne peut pas s'en vanter. Dès qu'on s'en vante, elle a disparu. Je peux être l'homme le plus humble de la terre, mais dès que je dis « Ah, qu'est-ce que je suis humble !» elle disparaît comme une boule de savon qui éclate. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment Moïse qui a écrit cette parole? Certains pensent que c'est la preuve que c'est inspiré par l'Esprit Saint. Que lui-même, Moïse, n'aurait pas dit ça de lui-même et qu'il a été un peu forcé. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que le mot qui est traduit par humble pourrait aussi être traduit par misérable, affligé. Afflicted. Et ça correspondrait bien à la situation. On a vu que Moïse, il en pouvait plus avec tous ces gens qui disaient Moïse de la viande, Moïse de la viande. Il voulait que le Seigneur prenne sa vie. Et donc il était vraiment désespéré. Et peut-être qu'il dit vraiment que dans ces conditions, il était vraiment misérable. Ce qui est intéressant, c'est que l'Éternel a entendu. Et l'Éternel va prendre des mesures. C'est l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament nous rappelle aussi que même les disciples qui étaient proches du Seigneur se disputaient. Les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand entre eux. Et lorsque Jésus leur demande de quoi ils parlaient, là ils gardèrent leur silence. Car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Quelque part, on sait que ce n'est pas la volonté du Seigneur de rechercher notre gloire, à être le premier. Mais si nous laissons notre vieille nature contrôler nos sentiments, on ne vaut pas mieux que Myriam ou Aaron. L'Éternel entend. Dieu est toujours là. On peut penser que notre péché, c'est seulement nous que ça concerne. Nous sommes tout seuls. Mais Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu sait tout. Avant même qu'une parole ne soit sortie de notre bouche, il la connaît déjà. Cette médisance, cette calomnie de Myriam, c'est quelque chose que Dieu condamne constamment dans la parole. Déjà dans l'Ancien Testament, le Lévitique 19-16 disait « Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple ». Et nous verrons d'autres passages dans le Nouveau Testament sans arrêt. Voyons la réaction de l'Éternel, verset 4. Lisons jusqu'au verset 9. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Sortez, vous trois, vers la tente de la rencontre. » Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, « Écoutez bien mes paroles. » Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Dieu met les points sur les i. Il leur explique que avec les autres prophètes, il parle de façon indirecte, au travers d'une vision, au travers d'un songe. Vous vous souvenez des songes d'Abraham, par exemple, au travers d'une énigme, d'une parabole. Mais il déclare être si proche de Moïse qu'il lui parle de vive voix, littéralement de bouche à bouche. Ça, c'est une intimité merveilleuse. Dieu aime Moïse d'une façon toute particulière. Il dit qu'il est fidèle dans toute sa maison. Il n'y aura qu'un plus grand prophète. Dans le Deutéronome 18-18, il est dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » C'est l'Éternel qui parle à Moïse. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et ce prophète, ce n'est pas Mohamed. Ce prophète, c'est Jésus-Christ lui-même. Moïse était un grand homme aux yeux de Dieu parce qu'il était humble. Il ne cherchait pas sa gloire. Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais il y en a un autre qui va être plus fidèle, c'est Jésus-Christ lui-même. Lisons ensemble dans le livre aux Hébreux, le chapitre 3. C'est page 244 dans la Bible à la colombe à la fin, dans le Nouveau Testament. Non, c'est pas la bonne référence. C'est page 247, pardon. Hébreux 3. C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et là, il est dit qu'en fait, Moïse était fidèle comme un serviteur. Il servait dans la maison, mais c'est Jésus qui a construit la maison. Jésus est le fils de la maison, il a été encore plus fidèle dans ce sens. Donc, le Seigneur indique très clairement à Myriam et Aaron qu'il a choisi librement, souverainement, d'élever Moïse et qu'ils doivent rester à leur place. Encore une fois, il semble que ce soit Myriam qui était à l'origine de cette jalousie. Et Aaron l'a suivi. Moïse, lui, ne cherche pas à se défendre. Un commentateur du siècle dernier a dit « Un accusé qui est innocent quelqu'un d'accusé qui est innocent n'a pas à se soucier de sa défense. Quand il sait que le juge lui-même sera son avocat. Ça doit nous parler que lorsque les gens nous accusent de choses qui sont fausses, nous n'avons pas à essayer de nous venger. À agir avec un esprit de représailles. Pourquoi ? Parce que le juge est lui-même notre avocat. The judge is our advocate. Verset 10, que se passe-t-il ? La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours ? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi ?» Elle y sera réintégrée. Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégrée. Après cela, le peuple partit de Hatseroth et campa dans le désert de Paran. Premier signe de la colère de l'Éternel, la nuée se retire. Ça peut être des fois un signe du déplaisir de Dieu à notre égard. Le sentiment qu'il n'est plus là. Il ne peut pas nous bénir de sa présence lorsque nous choisissons de lui désobéir. Il est toujours là près de nous. Mais il ne se manifeste plus à nous d'une façon réelle et présente. Donc la nuée s'en va et d'un seul coup Myriam se retrouve frappée d'une lèpre dans un état avancé. Et l'ironie de la situation, c'est que dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements et les commandements qui suivaient, il y a des tas d'instructions sur comment traiter la lèpre. Et celui qui avait l'expertise, en quelque sorte, qui était expert dans la matière, c'était le grand prêtre. Et donc c'est Aaron lui-même, l'expert, qui doit voir et réaliser que sa sœur a été frappée d'une grave maladie de lèpre.
So it was Aaron himself who had to see that his big sister had been attacked by leprosy.
pourquoi n'est-il pas puni? Peut-être parce que ce n'est pas lui qui avait commencé, entre guillemets. Mais peut-être aussi certains pensent que parce que le rôle du grand prêtre était vital pour le peuple d'Israël. Et s'il avait été touché par la lèpre, il n'aurait jamais pu plus rentrer dans le Saint des Saints une fois l'an. Il n'y aurait eu plus de pardon possible pour les Israélites. La lèpre, c'était une maladie terrible, notamment à cause de sa grande contagion. Elle obligeait le malade à être complètement isolé. Il devait porter ses vêtements déchirés, se raser la tête et crier lorsqu'il rencontrait des gens impurs, impurs. Au Moyen-Âge, on sait que, continuant cette tradition, les lépreux devaient se promener avec une crécelle pour faire du bruit. Comme le cas pour la maladie du sida, au début, on ne savait pas trop comment c'était contagieux. Et par hygiène, on voulait isoler les malades. Et non seulement avoir la maladie, mais se sentir rejeté par tous, faisait du sida, mais surtout de la lèpre, une maladie terrible. C'était une maladie qui, dans la Bible, souvent est un châtiment utilisé par Dieu. Vous vous souvenez peut-être du serviteur d'Élisée, Géasi, avait trompé son maître, et il avait reçu une lèpre, et bien d'autres dans la Bible. Aaron lui reconnaît tout de suite son péché. Le péché que nous avons eu la folie de commettre. Le péché, c'est toujours une imbécilité. Est-ce que vous le réalisez? C'est important. Des fois, on pense que le péché, c'est avoir le plaisir que Dieu veut nous refuser. Le péché, c'est ne pas faire confiance à Dieu, qui nous donne les bonnes choses, qui vont nous faire du bien. Bien sûr, il y a l'attrait immédiat du plaisir dans le péché. Il y a les conséquences terribles. Moïse, encore une fois, réagit comme un serviteur fidèle. Il prie pour que Dieu guérisse sa sœur. Et admirez la simplicité de la prière de Moïse. J'ai souvent constaté que plus les prières sont simples, et le plus près de Dieu les gens se trouvent. Lorsqu'on doit bénir par exemple le repas, j'ai vu des anciens serviteurs de Dieu dire simplement: Seigneur, bénis ce repas. Amen. Par contre, d'autres commencent à prier pour toute la planète. Et la réponse est de dire que si je suis en communion avec Dieu, j'ai pas besoin, je lui ai déjà parlé ce matin, je lui ai déjà parlé dans la journée. Admirez la simplicité de la prière. Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Que ça puisse nous inspirer dans nos prières. Les cris du cœur, simplement. Dieu comprend. L'Éternel accepte de la guérir. Mais il ajoute qu'elle doit être exclue du camp pendant 7 jours. Il guérit, c'est la grâce de Dieu. Mais le péché a des conséquences. et elle doit être tenue à l'écart pendant 7 jours. Encore une fois, notre péché, c'est pas seulement moi devant Dieu. Mon péché affecte ceux qui m'entourent, même les péchés dans mon cœur, les mauvais sentiments vis-à-vis de quelqu'un. C'est comme un acide qui va corroder, qui va faire du mal autour de moi. Le fait que Myriam et Aaron aient choisi ce moment n'était vraiment pas bien choisi. Parce qu'on sait que le peuple murmurait déjà. Et souvent notre péché ajoute au péché des autres. Si nous disons des paroles encourageantes, alors l'attitude de tous est encouragée. Il y a une attitude positive. Des émissions comme les Guignols de l'info, qui cultive le sarcasme, qui se moque de toutes les institutions. Quelque part, c'est drôle. Quelque part, ça fait beaucoup de mal à notre pays. Plus personne n'a confiance dans les zones politiques. Plus personne ne respecte les autres. Et dans nos vies, nous-mêmes, nos plaisanteries peuvent être sarcastiques. Moi-même, je peux être sarcastique. Mais le sarcasme, ça veut dire manger la chair. Ça fait mal. Même les petites plaisanteries, souvent elles ont un petit hameçon dedans, une petite pique qui fait mal. Et donc, Moïse, lui, prie et le Seigneur accepte de guérir Myriam. Mais son péché va immobiliser le peuple de Dieu pendant 7 jours. Notre péché nous empêche d'avancer dans le royaume de Dieu. Cet épisode de la plaie, de la lèpre de Myriam, Dieu l'utilise encore en exemple dans le Deutéronome. Il dit, souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Myriam pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Deutéronome 24, 8, 9.
Remember what the Lord your God did to Miriam along the way after you came out of Egypt.
Donc le Seigneur veut que nous souvenions de ce péché,
so remember, we have to remember sin,
de cette punition,
this punishment,
la lèpre de la calomnie.
The leprosy of slander.
Moïse est un exemple. Il prie pour ceux qui ont voulu lui faire du mal. Jésus a demandé à son père de pardonner ceux qui le crucifiaient parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc ici, le Seigneur nous dit de ne pas médire du serviteur de Dieu. Ça peut être bien sûr le pasteur ou celui qui vous enseigne. Ça ne veut pas dire qu'il peut raconter n'importe quoi. Souvenez-vous qu'il faut juger mes propos, les propos de tous ceux qui veulent vous enseigner, d'après la parole de Dieu. Le grand apôtre Paul se réjouissait de ce que les Béréens, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais médire des serviteurs de Dieu, ça veut dire médire de tous nos frères et nos sœurs. Et ça attire le châtiment de l'Éternel. Encore une fois, souvent on prend ça comme une petite chose humoristique.
Or we might take it as a small thing, a funny thing.
Une façon de lutter contre cette tentation, c'est de dire du bien de ceux auxquels nous pensons. Ne refuser aussi d'être un auditoire pour ceux qui critiquent les autres. L'apôtre Jacques a dit qu'on pouvait faire beaucoup de mal avec la langue. Lisons ensemble Jacques 3. Page 260, à partir du verset 5. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comment, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces des bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne et des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Nous devons garder nos cœurs. Plus loin, dans le même passage de Jacques, verset 4, lisons ensemble à partir du verset 5. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous, mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Chapitre 4, verset 5. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Verset 11. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur mais le juge. Un seul est législateur et juge. Celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ne médisons pas, ne disons pas du mal des autres. Ne nous vengeons pas de la médisance en médisant à notre tour. Nous avons le choix entre la malédiction et la bénédiction. Malédiction vient du latin, ça veut dire du mal d'eux. Appeler du mal sur quelqu'un. L'autre mot, c'est le mot bénédiction. Ça veut dire du bien d'eux. Ça veut dire appeler du bien sur quelqu'un. J'aimerais terminer avec ce verset de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 3, 8, page 264, enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Vous pouvez souligner ce passage. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction.
That was 1 Peter 3, 8. harmony with one another. Be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing.
Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Des fois, nous cherchons la volonté de Dieu pour notre vie. On recherche la volonté de Dieu. Il nous dit de commencer par dire du bien des autres. Et ce qui est merveilleux, c'est lorsqu'on dit du bien à quelqu'un, la personne va avoir envie de dire du bien à votre sujet. Il va y avoir du respect les uns pour les autres. Ce n'est pas une petite méthode psychologique, c'est une réalité profonde de notre cœur. Et si nous disons du bien, si nous appelons le bien sur les gens, alors le verset 9 nous dit que nous avons une promesse solennelle. Nous allons hériter la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire non seulement qu'on va dire du bien de nous, mais nous allons recevoir de bonnes choses. Nous allons avoir une prospérité spirituelle, peut-être même matérielle en retour. Et l'apôtre Pierre cite le psaume 34, verset 10 du chapitre 3. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Amen. Saradiba, la lèpre de la calomnie. Dieu nous en préserve. Prions. Seigneur, merci pour ce message que tu nous donnes par Myriam, qui avait voulu s'élever en disant du mal d'autrui. Et Seigneur, tu as dû l'humilier. Seigneur, apprends-nous à nous humilier devant ta face. Et si c'est ta volonté, Seigneur, en ton temps, tu nous élèveras, Seigneur. Mais Seigneur, préserve-nous de ce désir de notre chair de dire du mal des autres pour nous glorifier. Apprends-nous à dire du bien de l'autre, Seigneur. À penser de bonnes choses sur l'autre, Seigneur. Seigneur, car c'est ta volonté. Tu veux que nous bénissions. Seigneur, fais de nous des instruments de ta bénédiction, Seigneur. Par le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.